en mars, avec l'impromptu, on met les pieds dans le purin, ou dans la merde. Car si l'on écoute attentivement les discours de nombreux politiques et médias, l'on constate une tendance nationaliste conservatrice bien prononcée, qui ravive de très mauvais souvenirs. En effet, l'actualité a tendance à être prise par le biais de l'émotion, du sensationnel, de la manipulation plutôt qu'être sous le temps de l'analyse. Pour cela, nous allons nous pencher sur un événement qui a tenu la France en haleine pendant une bonne quinzaine de jours en ce mois de février. Bon, après, il se passe tellement de choses qu'il n'est pas bon d'essayer de suivre Madame Actualité, tant elle court vite. Pour cela, je vous invite à un voyage auditif et chronologique afin de mettre en lumière certains mécanismes d'influence d'opinion portés par les médias et personnes pas toujours bienveillantes. Heureusement, des citoyens vigilants permettent de remettre l'église au centre du village et de ne pas laisser à ces imposteurs l'opportunité d'imposer leur discours et de tronquer la vérité sans contradiction. On peut les en remercier. Il nous reste plus qu'à espérer en l'indépendance de la justice, qui, c'est sûr, doit subir quelques pressions. Vous venez d'entendre le chant de la Ligue Noire, un chant royaliste des fantassins lyonnais, qui a été entonné lors de la commémoration pour Quentin.
Ce que je veux vous dire, vous verrez comment... Même le fascisme, et d'ailleurs, vient de la gauche, Mussolini était socialiste, je vous le rappelle, et les nazis sont des nationaux socialistes, encore une fois, mais peu importe. Comment le fascisme est une réaction à la violence communiste?
Donc s'il y a de la violence aujourd'hui à droite pour vous, elle est en réaction à une violence de gauche. Je voudrais vous donner quelques chiffres, et on va s'arrêter dessus si vous voulez bien, vous me direz ce que vous en pensez. Depuis 2022, 7 personnes ont été tuées par des personnes se revendiquant comme des militants ou des sympathisants d'extrême droite contre aucune pour l'extrême gauche. J'ajoute que Quentin n'est pas dans ce décompte-là, en attendant qu'elle
ait
7-0.
Je ne connais pas ces chiffres, je ne sais pas d'où ça sort.
Ce sont les chiffres des personnes qui sont judiciarisées.
Je ne les connais pas et donc je ne les accrédite pas, je ne les nie pas, je n'en sais rien. Bon. Je ne veux pas discuter de ces chiffres.
Moi, je vous donne un autre chiffre, si vous le permettez.
Les chiffres, on fait dire ce qu'on veut aux chiffres.
Ce sont des gens qui travaillent depuis des années dessus, on peut peut-être leur faire confiance.
Attendez,
vous me direz ce que vous en pensez. La sociologue Isabelle Sommier, vous avez peut-être lu cette semaine dans Le Monde.
Oui, je l'ai lu.
Enseignante à Paris Panthéon-Sorbonne et chercheuse au CNRS, spécialiste de la violence, qui a recensé tous les actes de violence politique depuis 1986. Elle note d'une part une augmentation de la violence politique depuis 2017. Bien, vous la suivez sans doute. Elle dit que les agressions politiques sont à 60% aujourd'hui le fait de la droite radicale, à 25% de la gauche radicale. Ces chiffres-là, vous n'en voulez pas non plus.
Cette dame est une universitaire, mais c'est d'abord avant tout une militante d'extrême gauche. L'université est noyautée par la gauche et l'extrême gauche. Mmh. Et comme ils tiennent tous les rouages de l'université, ils la transforment en pseudo-science. C'est du blanchiment d'idéologie.
Dernier chiffre, Éric Zemmour, et là sont les chiffres officiels des gens qui sont en prison aujourd'hui pour terrorisme. Je suis à 65 militants d'ultra-droite et aucun d'ultra-gauche.
Ça prouve que la justice est plus dure avec les uns qu'avec les autres. Parce que la justice est massivement de gauche.
Donc la gauche libère des terroristes.
Vous savez, quand il y a une université de gauche, une magistrature de gauche, des médias de gauche...
Et vous pensez que la justice laisse en liberté des terroristes quand ils sont de gauche?
France Inter vient de publier sur son site quand CNews prend la main sur le récit national avec une photo de votre serviteur. Si France Inter pouvait ne pas me mettre une cible dans le dos, ça m'arrangerait. Je le dis vraiment, et je le dis à la présidente de Radio France, le récit national, c'est la Macronie qui le fait. C'est pas CNews. Hein? Et c'est le procureur. Donc je le répète solennellement, si Radio France pouvait éviter de nous mettre une cible dans le dos, ça nous arrangerait. Et je demande que cette photo soit retirée de Radio France. Parce que des gens peuvent être en danger. Et le climat est grave.
Pourquoi Radio France utilise-t-elle le terme « rixe » lorsque la victime est un jeune homme ? et la catholique de droite. Les bourreaux et leurs victimes ne sont pas les bons pour vous? Pourquoi minimiser le crime, souligner que Quentin était un militant nationaliste, souligner qu'il assistait à des messes en latin? Mais Radio France a choisi le mot de rixe pour parler de ce meurtre. Une rixe est un combat entre deux groupes. Cela implique une responsabilité partagée.
Je voudrais d'abord rappeler que dès le vendredi, nous avons régulièrement informé de la situation nos auditeurs, envoyé durant le week-end deux reporters sur place pour comprendre. Et je voudrais d'abord rappeler une chose, c'est que contrairement aux réseaux sociaux qui peuvent se permettre de faire des commentaires sans vérifier, jamais nous n'énonçons des faits ou des qualifications sans avoir l'ensemble des informations. Nous avons cherché à dire sur nos antennes ce que nous pouvions savoir heure par heure et nous avons, je pense, au fur et à mesure des heures et des jours, pu être de plus en plus précis. Et là aussi, je pense que c'est dans notre rôle en tant que médias de service public d'essayer à la fois de dire les faits de la manière la plus juste et également d'essayer de donner du recul par rapport à ce qui est en train de se produire dans le contexte absolument dramatique de ce décès, le décès d'un jeune. Personne ne peut l'admettre, c'est ce qu'il y a de plus dur. Et l'émotion que ça suscite, ça doit faire partie aussi de l'analyse qui est faite sur nos antennes.
Monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les députés, mes chers collègues, en hommage au jeune Quentin, je vous demande d'observer une minute de silence.
Monsieur le Premier ministre, toutes nos pensées vont d'abord évidemment à la famille de Quentin, qui a perdu son enfant. Dans notre région, dans notre ville, un fils qui est mort parce qu'il défendait ses idées, victime de la haine et de la barbarie. Ce n'est pas un fait divers. C'est le résultat de la banalisation de la violence politique. Il appartiendra à la justice de condamner, mais il appartient à chacun d'entre nous ici de dénoncer les responsabilités politiques qui ont mené à cette violence. Et cette violence ne vient pas de nulle part. Aujourd'hui, l'extrême gauche a du sang sur les mains. Elle a du sang sur les mains quand elle a cautionné Notre-Dame de Lens. Elle a du sang sur les mains quand elle qualifie le Hamas de mouvement de résistance. Elle a des sangs sur les mains quand elle a osé ici, dans cet hémicycle, avoir des députés d'extrême gauche qui ont applaudi l'un des leurs, fiché S, qui a osé proclamer dans cet hémicycle « Vive la jeune garde ». Non, ce n'est pas l'extrême gauche qui est agressée, c'est l'extrême gauche qui agresse. Non, ce n'est pas la police qui tue, c'est l'extrême gauche qui tue. Non, ce n'est pas l'extrême gauche qui défend la morale de la République. Aujourd'hui, c'est l'extrême gauche qui menace la République. Et monsieur le Premier ministre, tout ceci doit cesser.
Jordan Florentin.
D'après la version des témoins et des amis de Quentin qui étaient présents sur place, eux n'ont pas cherché à rendre de prise, ils ont cherché à se protéger, à reculer et à s'enfuir.
Ce sont vos amis qui se battent là contre sans doute des militants Antifa. Il y a Quentin parmi eux?
Écoutez, moi je vous vois à la conférence de presse du procureur Vienne.
Non, mais sur ces images précisément.
Qui lui ne parle pas de rixe.
D'accord, mais là on voit qu'il y a une bagarre. Est-ce que vos amis ont participé à cette bagarre?
Écoutez, moi je viens de découvrir cette vidéo en même temps que vous. Moi ce que je peux vous dire, c'est que nous avions une quinzaine d'hommes qui nous ont protégés. Et que s'il ne l'avait pas fait, peut-être qu'aujourd'hui ce serait une militante de Némésis.
D'accord, mais est-ce que ces hommes ont se sont battus directement avec des militants Antifa, certains étant armés de barres de fer? Est-ce que Quentin Derank a participé à cette rixe?
Il y a des Antifa qui étaient armés, qui ont attaqué les hommes qui étaient là pour nous protéger.
Et eux n'étaient pas armés?
Non.
Alors,
c'est les images, qui est habillé en noir? Est-ce que les amis dont vous parlez qui étaient là pour protéger le moment où vous déployez votre banderole, ils étaient habillés tout en noir également, comme ceux qu'on voit sur ces images?
Je n'ai pas l'information, en tout cas il n'y avait pas un dress code au sein des hommes qui étaient venus pour nous protéger. Aujourd'hui, vous pouvez dire qu'ils étaient venus pour vous protéger sans béquilles, sans fumigène, sans gaz lacrymogène ?
Écoutez, moi, l'enquête fera son travail. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que nous, on a des hommes qui n'étaient pas là pour se battre, qui étaient là pour nous protéger.
Vous les reconnaissez pas, là ? Vous ne vous dites pas, tiens, c'est, effectivement, ce sont eux, habillés en noir ?
Je ne sais pas ce que vous sous-entendez depuis tout à l'heure.
Moi, on essaie de comprendre ce qui s'est passé ce jour-là.
Que ce soit les gens en gris ou les gens...
Des casques, des parapluies, des béquilles...
Oui, ils sont équipés,
Enfin, en défense, ça veut dire donc qu'ils sont venus quand même avec un peu d'accessoires. Ils ne les ont pas trouvés sur place.
Vous savez, nous,
ils
ne
sont pas baissés pour ramasser un couteau.
Ça fait 6 ans qu'on essuie les violences à la fille. Donc et en fait, quand il y a des filles qui appellent leurs amis, qui leur disent, écoutez, moi, je ne me sens pas en sécurité d'aller demain faire une banderole. Et en fait, je les comprends. Je les comprends, les filles. Oui. Parce que nous, on en a essuyé des coups. Nous, on allait devant Sciences Po à Paris avec une banderole islamo-gauchiste hors de nos facs. Et on s'est fait malmener. Et il y a eu des images qui ont circulé. Donc oui, je comprends qu'en fait, des garçons se disent on peut pas laisser des filles dans cette situation.
Mais vous comprenez qu'ils viennent armés ?
Aujourd'hui, le procureur, il a reconnu qu'il y avait une attaque et que l'attaque, elle venait que d'un côté.
Oui, parce que ceux dont vous dites qu'ils sont vos amis, sur ces images, ils sont armés. Donc ma question, c'est est-ce que vous reconnaissez qu'ils viennent armés et...
Moi, je ne reconnais pas qu'ils viennent armés, parce que déjà, je ne sais pas qui est exactement à quel endroit sur ces images.
Vous venez de dire que ce sont vos amis, alors.
Moi, j'ai dit que nos amis se sont défendus. Je ne sais pas qui est là exactement.
L'homme que l'on voit sur ces images, c'est Quentin Derenck. Doudoune bleue et cagoule sur la tête, sang sur les mains, le militant d'extrême droite se trouve alors rue Victor Lagrange, à Lyon, sur les lieux mêmes où il a été frappé par plusieurs individus. Il est 18h07. Nous sommes quelques minutes après la rixe survenue entre les soutiens du collectif Némésis et des antifascistes. On aperçoit Quentin Derenck à gare, mais debout, accompagné par un ami. Tous les deux ont du sang sur les mains, sans que l'on puisse dire d'où il provient. Autour d'eux, une femme a déjà appelé les secours.
On envoie quelqu'un, mais s'il les porte pas, il y a un bon coup pour eux.
Les deux hommes hésitent sur la conduite à tenir. L'un des passants leur conseille de partir s'ils veulent éviter des problèmes avec la police.
D'accord,
mais... Pas de problème avec la police, je pense qu'il faut qu'il parte.
Une autre personne d'aller à l'hôpital s'il a reçu des coups sur la tête.
Je pense qu'il faut qu'il aille à Saint-Jean parce qu'il a l'air d'avoir...
Oui, mais c'est ce que...
Ils vont faire leur choix et marcher pendant près de 2 km, franchissant le Rhône, puis la Saône, jusqu'à un arrêt de bus situé quai Fulchiron. Là, l'état de Quentin Derenck se dégrade. Il sera finalement pris en charge par les pompiers vers 19h40, plus d'1h40 après les violences. Il décédera à l'hôpital Édouard Herriot le 14 février à 12h25.
Il s'est fait taper sur la tête.
Non mais c'est là pour ça,
il s'est fait taper sur la tête, vous voyez
non,
les informations.
Mais de quoi, madame, c'est une bagarre organisée, il y a deux groupes qui sont bagarrés.
Je pense qu'il faut qu'il aille à Saint-Jean parce qu'il a l'air d'avoir...
C'est pas une décision de notre part, évidemment, d'évacuer notre siège. Donc ça, il faudra vous renseigner auprès des services de police. Mais manifestement, c'était une menace indiquant l'installation d'une bombe à l'intérieur du siège de la France Insoumise. Bon, écoutez, depuis jeudi soir, vous avez une quinzaine de permanences parlementaires de la France Insoumise, de locaux de campagne, qui ont été parfois attaqués, parfois tagués, avec parfois des vitres cassées. Vous avez des candidates et des candidats de la France Insoumise aux élections municipales qui ont vu, ça a été le cas par exemple en Seine-Saint-Denis, leur domicile personnel être tagué. Vous avez des militantes et des militants de la France Insoumise qui ont été menacés par des militants d'extrême droite dans la rue.
Effectivement, on a eu accès à l'UMA à une conversation entre 5 militants lyonnais qui date en fait, qui se déroule au mois à la mi-octobre, le 14 octobre précisément, et qui est une conversation sur un groupe Telegram très confidentiel, du coup très fermé. Mm-hmm. Toute la question de cette conversation qui fait 154 messages sur cet après-midi-là, ce 14 octobre 2025, c'est de comment organiser cette action, savoir déjà quelle est l'action, parce qu'en fait, grosso modo, l'idée c'est que quelques filles de Némésis se présentent à un endroit et que non loin. Des gens qui sont en fait des gens des groupuscules néo-fascistes, hein, puisqu'en fait la personne la plus importante dans ce groupe, c'est Calixte Guy, qui est un des chefs, voire le chef de Audace Lyon, qui est un groupuscule qui a pris le relais de Lyon Populaire, enfin du Baston Social, et puis de Lyon Populaire, c'est-à-dire deux groupuscules nationalistes révolutionnaires lyonnais, enfin bien connus, qui avaient été dissous.
Donc est-ce que là, cette conversation, elle montre que c'est ça, qu'ils ont besoin en fait d'un service d'ordre au cas où ?
Non, en fait, je trouve que ce qu'on voit dans cette conversation, c'est plutôt que ces filles sont disponibles pour participer à une action. Qu'elles sont prêtes à faire soit un tractage, soit un stickage, enfin, n'importe quoi, parce qu'elles peuvent aussi. Elles se disent aussi que si ça n'a pas lieu, ben, elles iront au bar. Il y a un échange dans lequel elles disent bon, si c'est pas grave, si ça n'a pas lieu, on ira au bar. On a prévu de toute façon d'aller au bar à 18h. Et donc, en fait, elles se mettent plutôt à disposition en fait, des hommes, des gros bras, en fait, comme élément dans le paysage. Et en fait, elles le disent d'ailleurs un moment très clairement, parce qu'il y a toute une discussion, vous lirez dans le journal, mais il y a toute une discussion pour savoir s'il faut aller à l'Université catholique de Lyon ou à Lyon 2 ou à Lyon 3. Donc, savoir quel est le meilleur endroit, là où il y aura le plus de militants éventuellement antifascistes qui les attendraient, qui seraient susceptibles de réagir à ce qui est une provocation en fait. Mm-hmm. Et donc il y a toutes ces discussions et elles finissent par dire si c'est trop compliqué, il faut peut-être qu'on reporte à jeudi. Mais en même temps, si vous avez besoin, et ça c'est une citation qui est quand même très 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 importante, si vous avez besoin, nous on peut être 2-3 filles à tracter là où vous voulez les choper. Un peu pour faire la part, et elle rajoute d'ailleurs derrière Némésis, du coup, ne revendiquera pas. C'est vrai que dans leurs échanges, ce qui est frappant, c'est qu'au début de l'échange, ils disent on a repéré des gens de la Jeune Garde parmi les gens qui avaient pu nous prendre à partie, disent-ils, à l'Université catholique de Lyon une semaine avant, des sympathisants ou des militants de la Jeune Garde. Donc ils se disent ça veut dire qu'il y en a et que donc il y a peut-être une cible aussi potentielle. Et ensuite, ils parlent des gauches. C'est effectivement leur vocabulaire. C'est quand ils ne parlent pas d'antifa dans cette conversation, dans d'autres conversations, ils parlent d'antifa. Mais grosso modo, les gauches, ça veut dire les jeunes qui pourraient réagir à cette provocation.
Ça peut être aussi des étudiants éventuellement à la fac.
Des étudiants qui ne sont pas forcément organisés. C'est pas que des étudiants organisés, c'est des étudiants qui peuvent trouver les activités de Némésis sont problématiques. Par exemple, j'en ai pas parlé ce matin, mais à l'Université catholique de Lyon, dans le campus Carnot, de sciences humaines, il y a eu plusieurs actions de Némésis, et notamment l'action la semaine précédente par rapport à cette conversation. Et des gens réagissent, effectivement, des gens s'inquiètent de voir Némésis venir faire quand même un peu de l'agitprop, parce qu'en fait, tout ça sert quand même à faire des vidéos pour que ça puisse servir à alimenter les réseaux sociaux, les comptes Instagram, les comptes TikTok du mouvement Némésis à Lyon, mais Némésis sans doute au niveau national.
Et de faire de la com sur leur message politique, mais aussi éventuellement si leur stratégie en fait, de traquenard, on peut l'appeler comme ça, va au bout de dénoncer une violence qui vient de la gauche, ce que fait Némésis très, très régulièrement. Les exemples les plus frappants, c'est lors des manifestations du 8 mars, par exemple, en novembre de Nous Toutes, où il y a de la provocation pour créer du grabuge, voire un peu plus, et communiquer ensuite là-dessus.
En fait, ce qui se passe, c'est que donc les quelques militantes de Némésis finissent à arriver à l'endroit où elles doivent se montrer, en fait, être très visibles pour être repérées, et elles constatent qu'en fait, on les regarde de loin, mais qu'en fait, personne ne réagit. Et du coup, un des camarades fascistes, néo-fascistes de Calixte Guy, leur dit, écoutez, essayez de passer devant plus près de la fac, tentez encore un dernier coup. Et puis, finalement, Calixte Guy siffle la fin et il aboie, il dit, tout le monde rentre, c'est fini, quoi. Donc ça n'a pas marché ce jour-là, ça n'a rien donné, ça n'a d'ailleurs pas produit d'image sur les réseaux, évidemment, de Némésis, on a évidemment regardé un petit peu, ça n'avait pas d'intérêt, finalement, c'est raté, cette opération est ratée. Mais il y a des opérations sans doute qui peuvent réussir. Et donc tout l'intérêt de cette conversation, c'est de montrer un peu le fonctionnement ordinaire de cet activisme qui vise quand même à créer des incidents. De toute évidence, ça s'est largement revendiqué dans les conversations. Vous pouvez les lire sur Internet, sur le site de l'UMA, dans l'édition papier ce matin. Ça me paraît quand même assez explicitement revendiqué.
Euh, c'est important de le rappeler, je pense, dans la séquence, les liens entre Nemesis et les groupuscules, ils sont en fait anciens et étroits dès 2020, quand Alice Cordier fonde le collectif Nemesis. Elle, avant ça, elle a été militante de l'Action française. Elle est, au moment de cette création, en couple avec un membre de Zouave Paris, qui lui est un véritable néo-nazi et qui collectionne des objets à la gloire du Troisième Reich. Il y a peu de doute sur son idéologie. Il y a d'autres membres, parmi les premiers membres du collectif Nemesis, qui sont passés par Génération Identitaire, qui sont passés par Tenessoun, qui le sont devenus ensuite. C'est un collectif aussi, il faut le rappeler, qui a pu avoir des soutiens déplacés, et notamment de Bruno Retailleau. Il y a à peu près un an, c'était en janvier 2025, Bruno Retailleau qui était encore ministre de l'Intérieur, et qui leur disait, c'était devant, au moment d'une action de Nemesis devant l'Assemblée nationale, Bruno Retailleau dit « Je voudrais vous féliciter, bravo pour votre combat, j'en suis très proche ». Ça en dit aussi long sur l'atmosphère qu'on a un petit peu en ce moment. Le Rassemblement National a aussi apporté à plusieurs reprises son soutien à Nemesis. Ils ont aussi invité Alice Cordier et plusieurs membres de Nemesis, le groupe du Rassemblement National au Parlement européen, les ont invités. Donc voilà, c'est un écosystème qui part de l'extrême droite institutionnelle et qui va jusqu'au groupuscule néofasciste.
L'attaque planifiée, organisée par les Hussards, donc un autre groupe parisien, héritier du GUD et des Zouaves, des groupes qui ont été dissous là aussi. Donc une attaque dont on avait un peu parlé l'année dernière, qui était une attaque contre une projection d'un film de Costa Gavras, Z, au centre, organisé par l'Association culturelle des travailleurs de Turquie, avec le mouvement de jeunesse antifasciste Young Struggle. Et donc ces gens avaient organisé le 16 février 2025 une descente, au départ, ont-ils expliqué aux enquêteurs, pour faire une photo devant une porte cochère de l'adresse de cette association. Mais en fait, comme cette porte s'est ouverte et qu'à l'intérieur, ils sont tombés sur un militant antifasciste, un jeune militant antifasciste et un militant cégétiste par ailleurs, ils l'ont roué de coups, tabassé à 15 ou 20 contre 1. Et parmi donc les auteurs de ces faits, qui sont tous des Parisiens, sauf un qui s'appelle, les enquêteurs l'ont identifié comme Calixte Guy, le leader de ce mouvement lyonnais, qui était à Paris et qui connaît très bien les dirigeants des Hussards avec lesquels il fraye. Les dirigeants des Hussards étaient d'ailleurs, Bruno l'expliquera, dans le service d'ordre de la manifestation de samedi dernier. Donc il y a des relations très étroites entre des mouvements lyonnais et parisiens néofascistes. Nemesis discute, organise une action qui doit servir à une forme d'affrontement à minima et de tabassage. Ce Calixte Guy est quelqu'un d'assez connu, et en tout cas il est identifié par les enquêteurs comme il est aujourd'hui mis en examen comme 24 autres individus. Il est mis en examen dans l'affaire de cette agression contre la projection du film de Costa Gavras pour violence aggravée, violence en réunion, organisation et participation à une organisation voulant créer des violences et injures racistes. Donc il a une série de mises en examen. L'enquête est en cours, elle n'est pas du tout terminée. Mais il est connu, et c'est donc ce type qu'on retrouve au cœur de discussions secrètes avec Nemesis pour organiser des formes de pièges avec APA à Lyon. Donc on n'est pas face à des bras cassés, disons, qui tentent un truc un peu comme ça. Ces gens sont en quelque sorte des professionnels organisés de l'action politique violente, de l'action violente. Donc c'est pas rien. C'est aussi ce que permet d'établir notre révélation de ce matin, c'est qu'on est face à des individus qui sont des professionnels de ce type d'activité.
Te souviens-tu de ton histoire? Vigilant. révélation publiée par l'Humanité concernant les liens entre des militantes du collectif d'extrême droite Némésis et des néo-nazis du groupe Audace. Je vous les lis. On peut être deux ou trois filles à tracter là où vous voulez les choper, un peu pour faire l'appât. Ces échanges, intervenus en octobre dernier à Lyon, visaient à organiser un guet-apens contre des militants antifascistes. Les faits sont graves. Ils décrivent des méthodes d'intimidation et de violence politique assumées. Des fémo nationalistes qui échangent avec des néo-nazis pour piéger et frapper des opposants politiques. Ce sont ces mêmes groupes que votre ministère n'a pas interdit de défiler récemment à Lyon. Dans un contexte de récupération d'un drame humain, avec des mots d'ordre et des symboles qui révèlent la montée du fascisme. Allez-vous saisir la justice pour demander la dissolution judiciaire du collectif Némésis? Nous, nous sommes antifascistes parce que nous sommes républicains. Et vous?
La manifestation, elle avait été déclarée. Elle avait été déclarée par des personnes et elle a été déclarée comme un hommage en la mort dramatique de Quentin, hommage en Quentin. Et cette manifestation, évidemment, je ne l'ai pas autorisée, je ne l'ai pas interdite. Pourquoi? Parce que vous le savez très bien, et vous êtes bien placé pour le savoir, je ne peux interdire des manifestations que quand il y a des risques de trouble à l'ordre public, et qu'en plus, je ne suis pas en mesure de les contenir. Donc j'ai apprécié en conscience, et j'ai considéré qu'il n'y avait pas lieu d'interdire ce rassemblement. Pour autant, est-ce que cela veut dire que nous partageons les gestes et les propos inacceptables, gestes qui ont été tenus, les propos inacceptables qui ont été entendus? Évidemment non, puisque la justice a été saisie. Vous savez que la préfète du Rhône a exercé un article 40 et que des enquêtes judiciaires ont été ouvertes et que ces gestes et ces propos seront poursuivis et seront punis. Concernant la dissolution d'un certain nombre de structures, vous avez parlé notamment de Némésis. Tout groupement qui appelle à la violence, qui appelle à la discrimination, à la haine, est susceptible de faire l'objet d'une procédure de dissolution. Aucune structure n'y échappe, y compris les groupuscules de la mouvance, y compris les groupuscules de la mouvance identitaire à laquelle appartient Némésis. Que les choses soient claires, dans l'esprit du ministre de l'Intérieur que je suis, c'est le cas. Et ensuite, j'analyserai, comme je le fais pour tous les groupes d'ultra-droite comme d'ultra-gauche, s'ils rentrent dans le cadre de la dissolution ou pas. Concernant la saisine de la justice, il y a une enquête judiciaire qui est en cours sur les faits de Lyon, et je ne doute pas que si elle le devait, les magistrats n'hésiteront pas à étendre leurs investigations là où elles le doivent. Peut-être même dans vos rangs, comme dans d'autres rangs.
Dans cet état totalitaire, qui ne fait pas dans l'humanitaire, tu n'acceptes pas cette misère, alors tu te portes solidaire. Mais par les moyens judiciaires, l'État fera tout pour te faire taire. Et par les violences policières, l'État fera tout pour te mettre à terre.
Se trouver sur internet, histoire de se remettre du baume au cœur.
Vayamos para allá.
parle, on va te niquer la calotte de tes morts.
Et te péter les dents.
Les dents. Siamo. Tutti. Andi. Andi. Siamo. Tutti. Andi. Fascisti. Siamo. Tutti. Andi. Andi. Siamo. Tutti. Andi. Te péter les dents. Siamo. Tutti. Andi. Andi. Siamo. Tutti. Andi. Fascisti. Siamo. Tutti. Andi. Andi. Siamo. Calotte de tes morts. On va te niquer.
Siamo tutti antifascisti.
Niquer.
Antifascisti.
Siamo tutti antifascisti.